Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Touati avec qui nous allons parler croissance, récession, conflit, pandémie, bref, de gros sujets. Marc a commencé sa carrière comme enseignant-chercheur en économie et finance. Il devient ensuite le plus jeune chef économiste d'une grande banque en France. Et il crée 10 ans plus tard le premier cabinet de conseil et formation économique et financier indépendant au service des entreprises. Mais aujourd'hui, c'est à travers ses conférences, ses essais économiques et sa chaîne YouTube qu'on peut suivre ses interprétations et conseils, même quand tout s'affole comme ces deux dernières années. Bonjour Marc et bienvenue.
Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur le podcast APM, avec grand plaisir.
Ah, on est super content que tu nous donnes un peu de temps et que tu partages avec nous tes analyses. Alors, on va tout de suite poser les bases. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022 et c'est important de le dire parce que tout va très, très vite. Et toi, tu as des analyses qui vont regarder loin, mais évidemment, il y a beaucoup d'actualités. Alors là, on sort du deuxième tour des présidentielles. On est en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et on est encore dans je ne sais plus combientième vague on en est, de la pandémie mondiale Covid. Voilà le contexte dans lequel on enregistre cette interview.
C'est clair que c'est un peu compliqué, bien entendu. Mais bon, je dis toujours, les économistes, en fait, ils doivent essayer de réduire les incertitudes. Hein, c'est ça le vrai but. Mais bon, blague à part, vous savez pourquoi on a créé les économistes, hein? Pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Donc, tout ça, c'est par solidarité. Maintenant, on pourrait dire aussi les médecins, les géopolitologues, parce que c'est ça le problème. Tout le monde devient expert, spécialiste, etc. Bon, je pense qu'il faut rester sur son domaine d'activité. Mais bien sûr, en tant qu'économiste, on doit intégrer toutes ces variables, puisque ça influence nos économies. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. C'est vrai que tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. Je dis, voilà, il y a un an, on avait dit ça. Là, on a eu raison, là, on a eu tort. Et l'important, c'est effectivement d'être transparent dans son analyse, parce qu'on peut prévoir ce qu'on veut, finalement, mais il faut expliquer pourquoi on prévoit ça. Et par exemple, il y a un an, après, j'étais l'un des très rares à annoncer qu'il allait y avoir une augmentation de l'inflation dans le monde et en France. Et on me riait au nez, on disait non, mais l'inflation, ça va pas durer, c'est transitoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Pas du tout, hein. L'inflation a déjà débuté dès 2021. C'était lié au fait qu'on a fait trop de dépenses publiques, de dette publique, trop de planches à billets, hein, c'est-à-dire de financement de cette dette par les banques centrales. Donc, ce qui fait que c'est la loi de base de l'économie. Hein, la demande est devenue supérieure à l'offre. Et ça a généré une augmentation des prix. Après est arrivée cette guerre en Ukraine, avec des tensions très fortes sur les marchés des matières premières. Donc voilà, on a une inflation aujourd'hui qu'on n'a pas connue aux États-Unis depuis 1981, en France depuis 1985. Donc c'est comme on est dans l'histoire, entre guillemets. Et ça veut dire que toute notre génération, même si je suis un peu plus âgé que toi, Rémi, je crois, à peine, hein, toute notre génération, on n'a pas connu du tout. Hein, on ne sait pas comment réagir face à une telle inflation. Je donne juste le chiffre. On est, au moment où on parle, au mois d'avril, on est à 4,8% en France. 5,4% si on voit les normes Eurostat, c'est-à-dire sur la France. On est à 7,5% dans la zone euro, 8,1% aux États-Unis. Donc, c'est des chiffres qu'on n'a jamais connus depuis donc le début des années 80. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Et donc, c'est ce qui fait qu'on doit réagir en conséquence. Mais comme je le dis toujours, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Ça, je le dis pour les adhérents APM. Faut pas s'inquiéter. L'important, c'est de voir la réalité en face. Le drame qu'on a très souvent en France, malheureusement, c'est le déni de réalité. Ça veut dire que justement, on ne veut pas voir la réalité. On vous dit non, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas grave. On va augmenter la dette publique, on va faire des chèques, l'inflation, ça va pas durer, etc. Non, mais ça sert à rien de mentir, effectivement, parce qu'une fois qu'on est face à la réalité, alors là, on a des vraies difficultés. Donc moi, c'est pourquoi je prône toujours le réalisme. Je suis optimiste par nature, mais être réaliste, être optimiste, ça veut aussi dire qu'il faut être réaliste.
Bon, alors là, Marc, il t'a fallu 2 minutes 20 finalement pour faire les questions, les réponses, on a plié l'épisode.
Bon, ouais, c'est l'introduction, quoi, c'est le propos liminaire, pour capter l'auditeur, tu vois ce que je veux dire.
Marc, on voit tout de suite la tonalité, on va y revenir, et ça c'est super intéressant pour un économiste. Déjà, tu te mouilles, hein, dès l'intro, là tu te mouilles, tu balances des données, un point de vue super important, ça on va y revenir un peu après. Il t'a fallu moins de temps pour dresser le panorama de la France actuelle que moi expliquer ce matin au petit-déj à mes enfants qui était la personne que j'interviewais. Quand tu dois expliquer à des gamins ce que tu fais, tu leur dis quoi, toi ?
En fait, je leur dis tout simplement qu'on est en fait des réducteurs d'incertitudes. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite. Hein, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, voilà, on parle aujourd'hui, on est le 5 mai, peut-être demain la guerre en Ukraine va s'arrêter, on l'espère, peut-être ça va être la troisième guerre mondiale, enfin bon. Donc ça va extrêmement vite, il faut bien sûr s'adapter. C'est là où effectivement le métier a évolué. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais chef économiste de la Banque Populaire, on peut donner un nom, c'est pas grave. Hein. J'avais 27 ans, donc en 1997, c'est vrai que j'étais l'un des premiers, moi je voulais démocratiser l'économie. Et c'est vrai qu'il y avait, à l'époque, je me suis fait plein d'ennemis parmi les économistes, qui sont d'ailleurs toujours là, hein, les économistes de salon, comme je les appelle. Il y en a un peu à la PM, donc j'ai pas donné de nom, hein, bien sûr, mais bon, il y en a très peu. Hein. Mais ce que je dis par là, c'est que il y en a très peu à la PM, mais en France, il y en a beaucoup. Et donc, un de ces économistes m'a dit, écoute Marc, non, tu comprends, nous on est des experts, il faut mettre une distance avec les gens, on te comprend trop quand tu parles. Moi, je dis, écoute, t'as rien compris, je dis. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Mais ça, on était en 97-2000, c'était tout à fait nouveau. Aujourd'hui, heureusement, il y a d'autres économistes qui ont pris mon chemin, mais c'est vrai que on doit démocratiser l'économie. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça, pour moi, le plus important de mon métier, c'est de démocratiser l'économie parce qu'en France, on a une culture économique catastrophique. C'est-à-dire que on parle pas d'économie. Alors très souvent l'économie c'est politisé. On dit des faux semblants ou des fake news entre guillemets sur l'économie. C'est ça qui est très dangereux. Donc moi j'ai envie de dire, pour moi, mon but c'est bien sûr de faire des prévisions hein, et de me tromper le moins possible. Mais c'est surtout de démocratiser l'économie pour tous, évidemment pour créer du lien social. Je vais te donner un exemple. Tu parlais tout à l'heure des élections présidentielles. On va pas faire de politique, bien sûr, mais quand même. En France, en 2 ans, la dette publique a augmenté de 450 milliards d'euros. C'est-à-dire, il y a aucun pays qui a fait comme nous. On a donné des aides formidables. Et d'ailleurs, j'ai même dit à Bruno Le Maire, parce que je l'ai un petit peu conseillé, il m'a pas écouté, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, Bruno, vous donnez trop. Vous donnez un peu trop et n'importe comment. Il me dit, non, mais vous inquiétez pas. C'est la BCE qui finance, donc on est tranquille. Et voilà le piège. Donc, rendez-vous compte. 450 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique, et on nous dit que la France est un pays ultralibéral. Et au premier tour des présidentielles, 61% des voix vont vers des partis anti-système, qui veulent renverser la table. Donc c'est complètement fou, c'est-à-dire que on se rend pas compte de la chance que nous avons aujourd'hui d'habiter en France. Et donc tout ça, je pense, c'est parce que justement, on n'a pas de culture économique. Si on avait une culture économique, je pense que personne aujourd'hui en France n'oserait dire que la France est un pays ultralibéral. Nous avons 32% du PIB de dépenses sociales. C'est le poids le plus élevé dans le monde. Vous voyez, pour un exemple, la moyenne de l'OCDE, ça veut dire les pays riches, les pays développés, c'est 20%. Nous, 32%. Et c'est important d'avoir des dépenses sociales. Moi, bon, je le dis souvent parce que c'est important de dire d'où on vient. Moi, je viens des cités HLM d'Orly. J'ai vécu de 0 à 25 ans dans cette cité HLM. Donc, je sais ce que c'est avoir des difficultés. Je sais ce que c'est commencer de tout en bas. J'ai eu la chance de m'en sortir parce que j'ai eu ces aides sociales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est la fuite en avant. Dès qu'il y a un problème, on fait des chèques, on regarde même pas si ça marche ou ça marche pas. Et c'est ça qui est dangereux, à tel point qu'on a un poids des dépenses publiques de 60% de notre PIB, numéro 1 dans le monde, une dette publique de bientôt 120% de notre PIB. Et donc tout ça, ça pourra pas durer éternellement. Donc je suis aussi, entre guillemets, lanceur d'alerte. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui continuer comme ça, et surtout alors que les Français ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont.
Il y a plein de questions qui mènent. Alors déjà, toutes ces infos, moi je les avais vues dans ta vidéo « La France est en danger, comment la sauver ?» Tu as sorti cette vidéo il n'y a pas très très longtemps et il y avait beaucoup d'infos là-dessus. Est-ce qu'on peut s'attarder 2 secondes sur comment la sauver, du coup, c'était la
promesse de la vidéo. Voilà. Ça c'est très important, ce que j'appelle le rôle normatif de l'économie, parce que de l'économiste, du moins. Parce qu'effectivement, bon, quand on dit, on explique, on dit comment ça marche, après on fait des prévisions, puis l'important c'est de dire ben, comment on s'en sort. Et donc, aujourd'hui, pour sauver l'économie française, ben, on connaît les moyens de le faire. Depuis des années, moi, je l'avance. J'ai même écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « La thérapie de choc bienveillante », entre guillemets. Enfin, on doit besoin d'une thérapie de choc. Alors, attention, il faut être bienveillant, c'est-à-dire pas faire de la rigueur pour la rigueur, sinon, évidemment, tout va exploser. Et donc, je commence, par exemple, pour dire, première mesure, il faut baisser les impôts. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Il n'y a pas un pays qui fait mieux que nous. Et donc, on doit baisser les impôts pour tout le monde. Les entreprises, bien sûr, mais également les ménages. On parle de pouvoir d'achat aujourd'hui. Si on baisse la CSG, on donne toujours du pouvoir d'achat tout de suite à tous les Français. Donc, voyez, une mesure simple. Et ce qui va permettre ensuite, une fois qu'on a... Pardon ?
Je dis donc un baisse des impôts.
Oui, un baisse des impôts pour tous, ce qui va permettre justement de donner de la confiance, de donner également du pouvoir d'achat, et après également, on réduit les dépenses publiques. Alors, pas les dépenses sociales, mais les dépenses de fonctionnement. Je regardais les chiffres encore dernièrement, qui ont augmenté quand même de 117 milliards d'euros en une dizaine d'années. 117 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est pas l'investissement, c'est pas le social, le fonctionnement. Donc, Il y a des efforts à faire, à ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Voyez, tu vois, donc c'est ça aujourd'hui.
C'est un sujet de conflit permanent en France.
Oui,
la baisse des dépenses publiques sur les secteurs.
Le problème, c'est qu'en fait, c'est ça le drame, c'est que depuis des années, on n'arrête pas d'augmenter la dépense publique, la dette publique. Pourtant, les services publics, entre guillemets, ils apparaissent de moins bonne qualité. Donc, il y a un truc qui colle pas. Ça veut bien dire qu'on a dépensé, excuse-moi l'expression, n'importe comment. Et on a justement, c'est pas le tout de dépenser. Je donne souvent l'image, c'est comme là quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui dit bah tiens, je te donne, je sais pas, 500 euros, 1000 euros, puis tu me laisses tranquille. Ouais, mais c'est le proverbe chinois. Quand on voit quelqu'un en difficulté, si on lui donne un poisson, il va manger une journée. Si on lui apprend à pêcher, il mangera toute sa vie. Donc c'est le problème de la France, c'est-à-dire que on a un pays qui est formidable. Moi qui me balade beaucoup dans le monde, je peux vous dire que on a un pays qui est exceptionnel, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et donc évidemment, on lâche effectivement les dépenses sans ensuite s'inquiéter de savoir si c'est efficace, si ça réduit les inégalités ou pas. Donc c'est ça aujourd'hui la vraie difficulté, et c'est pourquoi je comprends qu'il y ait cette tension dans la société française. Moi, encore une fois, je viens des sites HLM d'Orly, donc je sais ce que c'est les tensions sociales, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains médias, etc. Mais encore une fois, la différence, c'est que moi, quand j'étais dans ma cité HLM, j'étais persuadé que j'allais m'en sortir, c'est-à-dire j'avais cette volonté. Aujourd'hui, et c'est ça en fait l'erreur qu'on fait, ce que veulent les jeunes des cités, c'est pas des aides. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'espoir de s'en sortir. Et si effectivement, aujourd'hui, quand on a un taux de chômage de 60% pour les moins de 25 ans dans les cités HLM de France, je dis, c'est quoi l'espoir? Vous voyez, c'est à part faire du deal ou des trucs comme ça, c'est ça qui est catastrophique. C'est là où effectivement, l'État n'a pas rempli son rôle. Vous voyez, donc voilà, donc encore une fois, les mesures, on les connaît. Après, bien sûr, bon, il faut fluidifier le marché du travail, il faut réduire le coût du travail, non pas en réduisant les salaires, bien sûr, mais en réduisant les charges qui pèsent sur les salaires, ce qui fera augmenter les salaires nets, donc ça donnera du pouvoir d'achat. Il faut également faciliter le financement de notre économie, créer des fonds d'investissement de long terme qui permettront également de financer la retraite. C'est ce qu'on appelle des fonds de pension, et c'est un gros mot en France, mais c'est des fonds en fait d'investissement. Vous voyez, voilà, il y a tous ces enjeux. Miser sur l'innovation et bien sûr développer la culture économique, c'est ce qu'on fait avec l'APM, ce qu'on fait en ce moment, mais c'est vrai que bon, il y a un gros travail à faire que j'essaye de faire à mon niveau depuis des années sur les médias français, mais c'est vrai que c'est pas évident, et puis il y a quand même beaucoup d'omerta, faut être honnête, donc c'est ce qui fait que voilà, moi quand je dis ça, vous voyez, on me dit souvent, ça m'arrive encore dernièrement, on me dit mais oui, mais Stoati, mais vous êtes un ultra-libéral. Alors que je suis pas du tout ultra-libéral, moi je suis pour la dépense publique, mais il faut un peu de, bien sûr il faut de la liberté, il faut du libéralisme et il faut de la protection, c'est ça la force de la France. Mais encore une fois, on se rend pas compte, et là moi je vois les dérives un petit peu extrémistes qui me font un peu peur, parce que je me dis, c'est quoi la fin du système, c'est quoi? C'est que comme on augmente la dépense publique, la dette publique, alors pendant la pandémie ça s'est pas trop vu, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui a financé, donc ça s'appelle la planche à billets, donc on pouvait augmenter la dette publique, les taux d'intérêt baissaient, donc il n'y a pas de problème. Là c'est différent, parce que comme il y a de l'inflation, la BCE ne peut plus financer, ne peut plus faire cette planche à billets, et donc ben, on le voit, les taux d'intérêt des obligations d'État ne cessent d'augmenter, donc les taux de nos crédits augmentent, et si les taux d'intérêt augmentent, évidemment ça casse l'activité économique. D'ailleurs je le dis aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, si vous avez des endettements à faire, il faut le faire maintenant, tant que les taux d'intérêt sont relativement bas, parce que la hausse des taux va évidemment continuer, et ça peut faire très très mal, bien entendu. Alors, ce qui veut dire que maintenant qu'on n'a plus la BCE pour financer tout ça, comment on va financer? Bah oui, écoute, bah il faut trouver de l'argent quelque part. Donc, on va encore, malheureusement, même si on est numéro un en la matière, augmenter les impôts.
Augmenter les impôts.
Eh oui, c'est ça le risque, c'est ça le grand danger. Tu vois, donc.
Et alors?
Quand je vois la dérive, par exemple, sans faire de politique. Oui?
Non, parce que il y a beaucoup de choses là-dessus, hein, dans ce que tu veux dire. Mais je voudrais revenir à ces notions-là qui sont au cœur de ton propos du moment, récession, inflation. Si j'ai bien compris, un des risques là, et on augmente les impôts, on fait baisser la confiance des ménages. En faisant baisser la confiance des ménages, on fait baisser la consommation des ménages. Donc, on touche au PIB. Et donc, récession, plus de l'autre côté, des taux d'intérêt qui montent, inflation, etc., etc. Ça sent pas bon, là, Marc, hein?
Bah, tu vas faire peur à tout le monde, là. Bon, après, il faut une distribution de, je sais pas, de Prozac ou je sais pas quoi pour calmer le jeu. Non, mais, non, ce que je veux dire par là, c'est que...
On est là-dedans, hein.
Oui, c'est vrai. Non, on a effectivement aujourd'hui une vraie difficulté, c'est-à-dire que on a, je suis désolé, hein, C'est vrai qu'en 2020, bon, on n'avait pas le choix, il y avait la pandémie, on ne savait pas comment faire, donc on a augmenté les dépenses très bien. Mais en 2021, on a très mal géré la pandémie. C'est-à-dire qu'on a continué cette gabegie de dépenses publiques, cette gabegie de planche à billets, et c'est ça qui nous a mis dans le piège. C'est ça qui a créé l'inflation. Maintenant que l'inflation est là, on a donc ce qu'on appelle cette stagflation. C'est-à-dire, c'est un terme économique qui veut dire stag, ça veut dire stagnation économique ou récession. Et inflation, ça veut dire inflation. Le danger, c'est que aujourd'hui, l'inflation, on n'arrive plus à la contrôler. Et c'est là qu'est le piège. Parce que si les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, donc ça va faire baisser un petit peu l'inflation, mais ça va surtout casser la croissance. Et si elles ne font rien, ça va alimenter l'inflation. Et donc, à ce moment-là, elles sont prises à leur propre piège. C'est-à-dire que soit elles cassent la croissance, soit elles alimentent l'inflation. Donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Mais encore une fois, on s'est mis nous-mêmes dans ce piège. C'est que les dirigeants du monde, hein, en 2021, disons-le, hein, sans être méchants, n'ont pas été à la hauteur de la situation. On nous a menti. On nous a dit, oui, non, mais il n'y aura jamais d'inflation, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est extrêmement dangereux. Mais bon... maintenant, d'un autre côté, bon, faut être clair, on va sortir de cette inflation. Hein. Les prix vont repartir, ça va ralentir à partir de la mi-2022, voire automne 2022, parce que ça, c'est encore une fois, tout à l'heure je l'évoquais, c'est la règle de base de l'économie. Ça veut dire que si les prix vont trop haut, ça casse la demande. Donc la demande baisse, elle passe sous l'offre, et là, les prix repartent à la baisse. Donc, c'est ce qui va se produire malheureusement, et après on pourra repartir sur des bases plus saines. Mais c'est vrai qu'on va avoir, je vais pas mentir, hein, on va avoir 6 à 9 mois un petit peu compliqués, et c'est là aussi on va voir les bons chefs d'entreprise, les bonnes entreprises, celles qui ont les reins solides, celles qui ont su mettre en pratique les conseils stratégiques que je donne tout le temps dans mes conférences APM, justement sur l'innovation, la recherche de niche, etc., le développement international. Donc là, malheureusement, il va avoir effectivement des entreprises qui vont s'en sortir, puis d'autres qui ne vont pas s'en sortir, c'est la vie malheureusement. C'est vrai que pendant la pandémie, finalement, tout le monde s'en est sorti, parce qu'il y avait tellement d'aide que finalement, on n'a jamais eu aussi peu de faillites d'entreprises en 2020-2021 dans l'histoire de France. Quelque chose de, enfin, depuis qu'on a des statistiques, bien sûr, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est assez incroyable. On a eu la plus grave récession de l'histoire, pas de faillite d'entreprise. Voilà. Et donc, évidemment, maintenant, il y a un effet de rattrapage, bien entendu. Donc, c'est là aujourd'hui le vrai enjeu. Encore une fois, hein, ce qu'on appelle un aléa moral en théorie des jeux, si effectivement on aide tout le monde n'importe comment, ben après, ceux qui ont fait le bon boulot, ils sont pas valorisés par rapport à ceux qui ont fait du sale boulot. Donc, il faut aujourd'hui retrouver cette normalité. On était dans un monde anormal, on l'est d'ailleurs toujours encore un peu. On va retrouver, je pense, fin 2022 et en 2023, la normalité. Donc, je suis pas inquiet pour les adhérents APM, parce que eux, ce sont des bons chefs d'entreprise en règle générale, et donc, ils ont fait les bons choix stratégiques, et donc, ils vont s'en sortir.
Marc, là, tu parles d'aléa et ça me renvoie à une notion de temps. Quand on est économiste, qu'on fait ton métier, on fait des prévisions pas tactiques sur le court terme. On est bien d'accord que ton temps à toi, c'est le temps long.
Oui, alors, on fait les deux. En fait, moi, je m'adapte, je fais du conseil aux dirigeants d'entreprise, hein, et aux banques, etc., aux gérants, etc., gérants de fonds et autres. Donc, mon premier métier, c'est que je fais du conseil en m'adaptant à la demande. C'est-à-dire, c'est évidemment, c'est le problème des économistes de salon, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Eux, ils s'en fichent complètement, ils font des prévisions, ils s'amusent, quoi. Mais si ça sert à rien, évidemment, eux-mêmes ne servent à rien. Donc, moi, je m'adapte à ce que veut, effectivement, le client, entre guillemets. Et donc, je fais des prévisions des fois sur court terme, par exemple sur les marchés financiers. Ben là, on veut sur du court terme, donc ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, etc. Et après, effectivement, pour les entreprises, ça va être plus sur 2, 3 ans, 4 ans. Et après, évidemment, alors si on a plus le temps, on peut faire des prévisions sur 10 ans. Mais c'est clair que ça va être extrêmement, extrêmement compliqué vu que le monde va de plus en plus vite. Donc déjà, faire des prévisions à 1 an, c'est pas facile. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être honnête, c'est le temps de la prévision. C'est 1 an. Au-delà d'un an, ça devient extrêmement compliqué. Mais encore une fois...
Mais tout à l'heure, quand tu esquissais les pistes de solutions, tu nous as parlé que de choses plutôt moyen-long terme.
L'innovation, ça c'est pas pareil.
Aller sur des nouvelles niches, etc. Là, on est sur une vision plutôt macro et plutôt moyen-long terme. Mais après, tu as tout ce qui va être tactique, les placements financiers. Tiens, quel marché va faire quoi? Qu'est-ce que je fais avec mon cash? Comment je gère mes approvisionnements de matières qui sont en tension? Mes prix hautes montent, comment je répercute ça sur mes prêts d'achat?
Il y a deux choses. Il y a effectivement la prévision, tu veux, la prévision. Donc là, effectivement, en fonction de la demande, je m'adapte. Ça peut être à 6 mois, 1 an, 2 ans. Généralement, c'est 2 ans qu'on me demande. Et puis après, bien sûr, il y a la démarche stratégique sur le long terme. Donc, bien sûr, pour les entreprises, c'est clair que les pistes stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien sûr sur plusieurs années, bien entendu. Pour les États, c'est pareil, c'est sur plusieurs années. Même, je donne un exemple très simple. On me dit souvent, alors c'est quoi le meilleur placement? Le meilleur placement financier, est-ce que c'est l'or, est-ce que c'est l'immobilier, est-ce que c'est la bourse, etc. En fait, là aussi, ça dépend de l'horizon de placement. C'est vrai que quand on est dans une phase de crise comme aujourd'hui, le meilleur placement, c'est l'or. C'est celui, du moins, qui nous protège le plus. Par contre, sur le long terme, les meilleurs placements, quand je dis long terme, c'est 10 ans. J'ai fait une étude dernièrement, justement, pour montrer que même si on investit au sommet des bulles, donc ça veut dire qu'on se prend un crack derrière, eh bien, les meilleurs placements, ça reste les actions et les marchés immobiliers. Donc, c'est-à-dire sur le long terme, sur 10 ans, c'est clair que si on a les moyens justement d'attendre 10 ans, c'est évident qu'il faut des actions et il faut de l'immobilier. C'est les placements, je dirais, les plus sûrs. Donc, c'est là où il faut s'adapter.
Dans les vidéos que tu as sorties récemment, parce que moi, j'ai préparé, hein, j'ai fait mon travail, j'ai regardé la vidéo sur la bulle de l'immobilier qui va péter, où tu annonces déjà, les chiffres parlent et disent, bah là, en mai 2022, on a des signes de baisse, en tout cas, pour la première fois de cette hausse. Alors,
ça a commencé au quatrième trimestre 2021, et là, ça continue, évidemment. Si je prends le cas des grandes villes, par exemple, à Paris, Lyon, etc., ça fait 7 mois consécutifs que ça baisse. Donc, c'est vrai que ça avait beaucoup monté avant, mais ça, on l'a jamais vu depuis 10 ans, 10-15 ans. Donc, c'est normal. Ce qui était anormal, c'est qu'en fait, on a alimenté la bulle immobilière parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Maintenant que les taux d'intérêt remontent, bah, on retrouve une certaine normalité. Et moi, je dis attention.
T'expliques bien la mécanique d'ensemble dans ta vidéo et comment tout est interconnecté. Et donc, en gros, si on en vient au conseil, là, allez, on va donner 2-3 petits tuyaux quand même. Donc, court terme. En même temps, il faut mieux acheter maintenant avant que les taux d'intérêt remontent.
Ah oui, non, attention. Sur l'immobilier, il faut être clair, si on est locataire, il faut tout faire pour devenir propriétaire. Parce que là, évidemment, même si les prix baissent de 10-15% à moyen terme, à 10 ans, à 15 ans, ça remontera et au moins, on n'aura pas perdu le loyer. Parce que quand on paye un loyer, finalement, on le perd, bien entendu. Alors donc, c'est clair que profitons des taux d'intérêt qui sont bas, parce qu'effectivement, ils vont augmenter. Par contre, pour tout ce qui est investissement immobilier, alors là, c'est plus compliqué. Parce que, évidemment, si vous faites que investir, eh bien là, les prix vont peut-être baisser 10, 15, peut-être même 20%. Encore une fois, il faut être honnête de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est tellement sur un écart historique entre les prix des logements, parce que c'est ça une bulle, hein, c'est quand les prix des grandeurs financières vont trop loin par rapport à la réalité économique. Donc là, on a un écart historique entre les prix de logement et les revenus des ménages. Donc c'est ce qui fait qu'il y aura, et bien entendu, un ajustement, mais après on repartira, les prix immobiliers repartiront à la hausse.
Et sur le long terme, voilà.
Sur des bases plus saines, bien entendu. Ouais. Donc ça veut dire, tout
à 10 ans, on risque rien. Si c'est à 10 ans.
Voilà, c'est l'horizon d'investissement. Donc, c'est vrai que pour un chef d'entreprise, quand il regarde à 10 ans, c'est clair qu'il faut constamment investir, innover. Ça, il ne faut pas se poser la question. Pareil sur l'immobilier. Voilà, sur les marchés actions aussi, à long terme. Voilà. Puis bon, entre-temps, on aura des
dividendes. J'ai regardé l'autre vidéo dans laquelle tu parles des marchés actions et tu dis ce n'est pas le bon moment pour acheter des actions.
Ah oui, ça j'ai dit il y a quelques mois. Tu as vu ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a bien baissé. C'est sûr que le problème qu'on a aujourd'hui, je vais te dire très honnêtement, le problème, on l'a vu pendant la pandémie, et je pense que c'est un problème philosophique, c'est qu'on ne veut plus se faire mal, c'est-à-dire on ne veut plus affronter la réalité. C'est-à-dire qu'on a eu une pandémie dramatique, donc bien sûr, tu as eu un krach boursier, c'est logique, mais on dit non, mais on ne veut pas de krach boursier. Attends, mais c'est normal, tu as une pandémie, tu as une récession historique, c'est normal que la bourse baisse. On te dit non. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, les banques centrales, justement, elles ont distribué des liquidités. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'au lieu, finalement, justement, d'aider les populations, elles les ont aidées un petit peu, mais surtout, elles ont alimenté les bulles boursières. C'est-à-dire, c'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dans leur rôle. Le rôle d'une banque centrale, c'est de limiter l'inflation et d'assurer le plein emploi. Là, ça, le but, c'était juste de faire plaisir au gouvernement pour augmenter la dette publique et de faire plaisir au marché pour que, effectivement, la bourse monte. C'est pas très bon. Et surtout, c'est ça qui est fou, ça a accru les inégalités. Parce que ceux qui avaient de l'épargne, eux, ils ont pu investir en bourse, donc ils sont devenus, entre guillemets, plus riches. Mais ceux qui n'en avaient pas, qui n'ont pas pu investir en bourse, bah, eux, ils ont des vraies difficultés. Donc c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Donc tout ça pour dire que, évidemment, encore une fois, les politiques que nous menons, d'un point de vue monétaire, d'un point de vue budgétaire, ça a des conséquences. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce que, justement, on ne veut pas affronter la réalité. C'est ça, moi, qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas dire les choses, on ne veut pas affronter la réalité. Donc, finalement, on ne prend pas les mesures, on fait des chèques, on masque la réalité. Vous voyez, on met les pertes sous le tapis, sauf qu'à la fin, le tapis, il devient énorme, quoi. Donc, on les voit, les difficultés. Donc, voilà. Donc, moi, je milite pour ça, pour dire, effectivement, la vérité.
Le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, qui a démarré il y a quelques mois, quelle incidence, si ça dure, concrètement? Et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout?
Alors, Voilà, c'est vrai que c'est un peu touchy comme sujet. Enfin, moi je comprends pas comment on est arrivé là, quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est horrible ce qui est en train de se passer, parce que à la fin, donc bon, je prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, hein, mais moi j'aime pas quand le monde est trop manichéen. C'est-à-dire, il y a les méchants russes et les gentils ukrainiens. Bon, c'est vrai que c'est un drame humain. La guerre, c'est avant tout, c'est des milliers de morts. C'est horrible. C'est ça le vrai enjeu. Alors après, bien sûr, on a des conséquences sur les prix des matières premières, donc sur nous, sur notre inflation chez nous, hein, les prix des matières premières qui flambent. Et nous, à la rigueur, on est un pays riche, mais imaginez dans les pays émergents où les biens alimentaires, c'est l'essentiel de la consommation, il y a des crises alimentaires dramatiques qui risquent de se produire. Même si la guerre s'arrête demain, eh bien, il y a de tels décalages en termes de production de blé, par exemple, que pendant jusqu'à la fin 2022, il y a beaucoup de pays qui vont être au bord de la famine. Et après, ça veut dire qu'il y a des risques d'instabilité sociale, sociétale, des révolutions. Enfin, ça fait très peur tout ça. Et donc moi,
est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en tant que chef d'entreprise français? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire?
Par rapport à quoi? Par rapport à... Ah bah oui, bon, déjà, il faut, si on peut, bien entendu, il faut se couvrir. Ça veut dire qu'il faut acheter alors pas spéculer, attention, mais se couvrir sur les prix des matières premières. Moi, je trouve qu'il faut acheter ce qu'on appelle des options qui permettent de figer le prix des matières premières qu'on va acheter. Donc là, il y a un moyen, effectivement, de se protéger. Voilà. Mais après, bon, il faut pas spéculer parce que, évidemment, ça peut, si la guerre s'arrête, après, les prix vont repartir à la baisse. Donc ça, voilà, il faut pas s'amuser à spéculer. Mais au moins couvrir. Ça veut dire que si les prix montent, on a le même prix. Puis si les prix baissent, on profite de la baisse des prix. Donc, c'est ce qu'on appelle des options. Allez voir vos banquiers. Et normalement, il doit faire. Donc, c'est ça qu'un chef d'entreprise peut aujourd'hui faire, mais il ne doit pas s'amuser à spéculer. Mais moi, encore une fois, ce qui me peine, c'est qu'on n'ait pas fait le maximum pour éviter cette guerre, c'est-à-dire avoir un accord diplomatique. C'est ça, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment on en est arrivé là. Parce que là, c'est l'engrenage. On peut très bien avoir demain, j'espère pas, bien sûr, une troisième guerre mondiale. Sinon, on sera peut-être plus là pour en parler, on ne sait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très dangereux, le jeu dans lequel nous sommes en train de jouer aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux. Je ne dis pas qu'il fallait laisser faire Poutine, etc. Mais il fallait mettre le paquet sur la diplomatie, et ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est quand même un petit peu dangereux. Et surtout, ça vient après la pandémie. C'est-à-dire que on est complètement à plat. On a utilisé toutes les cartouches pour sauver le monde, entre guillemets, pendant la pandémie. Maintenant qu'arrive cette guerre... Ben là, on n'a plus de moyens de relancer la machine. Alors, bon, la dette publique augmente, etc. Oui, sauf que là, on ne peut plus la financer. Donc, c'est une fuite en avant extrêmement, extrêmement dangereuse. Donc, bon, j'espère que cette guerre va s'arrêter le plus vite. Moi, ce qui me rend fou, c'est que je pense qu'elle va s'arrêter et que l'Ukraine va malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, elle va perdre ses deux provinces russes, entre guillemets. Elles vont s'engager de ne pas rentrer dans l'OTAN. Donc, c'est exactement ce qu'on aurait pu faire il y a 4 mois. Il n'y aurait pas eu des milliers de morts. Donc, c'est ça. Je suis un petit peu inquiet par rapport à ça. Alors, j'ai pas rentré dans chacun son domaine. Et ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue économique, cette guerre aura des conséquences durables. Et d'un point de vue également social, y compris chez nous, hein, en France, puisqu'on le voit aujourd'hui, l'inflation augmente, l'inflation surtout sur les biens alimentaires, sur les biens du quotidien finalement. Donc que consomment beaucoup en part relative les ménages modestes. Donc là aussi, on prend des risques sur la stabilité sociale, sociétale de la France. Hein, Donc voilà. Donc c'est dommage, je veux dire, c'est dommage vraiment d'en être arrivé là.
Et tiens, question à la volée, puis ça sera la dernière, parce que le temps a déjà filé, mais qu'est-ce que tu conseilles aux chefs d'entreprise? C'est une question que j'ai beaucoup entendue ces derniers temps à l'APM. Qu'est-ce que tu conseilles aux chefs d'entreprise pour accompagner l'inflation vis-à-vis des salariés? Et sous-entendu, la question des rémunérations. Parce qu'on comprend assez vite et assez facilement que le pouvoir d'achat baisse. On comprend assez vite que c'est plutôt structurel, ou en tout cas conjoncturel qui peut durer. Si c'est conjoncturel, on n'a pas intérêt à faire une augmentation des salaires qui, elle, serait structurelle. Donc, il faudrait plutôt aller sur des dispositifs de primes un peu exceptionnels. Il y a un dispositif qui est proposé par le gouvernement Macron qui est reconduit cette année, où on peut faire des... Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oui, la prime Macron, ça sera défiscalisé, ouais. Effectivement. Oui,
ça. Mais ça, ça ne permet pas de faire... Enfin, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Est-ce qu'on dit, voilà, il y a une augmentation qui est 5%, on fait une augmentation de tous les salaires de 1,5% tous les ans ou de X% tous les ans pour accompagner ça? Ou est-ce que c'est, non, c'est conjoncturel, donc là, on accompagne cette année, ou alors on fait comme si de rien n'était et on ne dit rien?
Non, moi, je pense... Alors aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'on a en plus en France des pénuries de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a... Ça aussi, c'est une des conséquences du corona. Il y a des populations de main-d'œuvre, hein, des salariés, des employés, des ouvriers qui ont disparu du marché du travail. C'est incroyable. Ils ont disparu. C'est-à-dire, on ne sait pas où ils sont. Alors, soit ils ont arrêté de travailler, soit ils ont été faire de la spéculation, soit ils sont mis en pré-retraite. Enfin, on ne sait pas trop. Mais aujourd'hui, on a des pénuries. Parce qu'en France, déjà, il y avait toujours des pénuries de main-d'œuvre entre 150 et 300 000 par an. C'est-à-dire, des entreprises qui voulaient embaucher, mais il n'y avait personne en face à cause des mauvaises formations. Enfin, l'offre de travail qui n'était pas, adaptée à ce que veulent les entreprises. Voilà, ça, c'est la difficulté structurelle. Mais là, avec cette pandémie, il y a vraiment des personnes qui ont démissionné de leurs emplois, etc. Et donc, on n'arrive pas à les récupérer. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un cas mondial. Même aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites très sérieuses qui montrent qu'il y a plusieurs millions de personnes qui ont quitté le marché du travail. Donc, évidemment, mécaniquement, ça fait monter les salaires parce que vous voulez garder vos salariés. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit tout faire pour maintenir ses salariés, les conserver, ce qu'elle souhaite, bien sûr. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il faudra quand même augmenter un petit peu les salaires. Alors, l'idéal, ça serait que l'État baisse les charges. Mais en attendant sur cette inflation, c'est clair que la solution des primes est idéale. Parce que si effectivement le danger, c'est, j'évoquais tout à l'heure, comme les prix vont trop augmenter, après la demande va baisser. Et donc, si vous avez augmenté trop fortement les salaires, et vous devez continuer. Et là, évidemment, vous ne pourrez pas répondre, parce qu'il y aura moins de demandes en face. Donc, il faut être prudent. Je pense que la solution de la prime aujourd'hui, elle est la meilleure. Sachant que déjà avant l'inflation, il fallait quand même un petit peu augmenter les salaires si on veut garder ses salariés. Puis après, ça dépend des secteurs d'activité, voilà, ça dépend de l'entreprise, parce que ça aussi, hein, si on augmente trop les salaires et qu'il n'y a pas de marge, l'entreprise ne pourra pas tenir. Donc c'est ça aussi le vrai enjeu. Donc c'est au cas par cas, j'ai envie de dire, mais je pense que pour l'instant, petite hausse des salaires pour montrer aux salariés qu'on veut bien sûr les maintenir, et puis bien sûr des primes, et également, on l'oublie souvent, mais il y a tout ce qui concerne l'intéressement, la participation, là aussi ça fidélise les salariés. Donc voilà, il faut créer du lien social dans nos entreprises, développer la culture économique de nos salariés, et comme ça nos entreprises pourront sortir toujours grandies de toutes les crises qu'on a traversées et qu'on va encore traverser demain.
Eh ben, c'est un beau message d'ouverture. Merci beaucoup pour cet entretien à bâton rompu, Marc. On a balayé beaucoup de sujets. Hein.
Ah oui, c'était complet. Dense. Hein.
Voilà, c'était bon. On était le 5 mai. On verra de ces prévisions ce qui va se réaliser. On a donné quelques tuyaux pour essayer de naviguer quand y a du brouillard là, et de l'incertitude. Donc, essayons de diminuer l'incertitude. Merci beaucoup, Marc, pour cet entretien. À bientôt.
À bientôt.